C'est ça, la mort ? Ah, bizarre. J'aurais cru que c'était plus différent de la vie. Il y eut une seconde détonation. Gabriel arracha l'arme des mains de sa tante et l'examina. Ah ! On a enlevé les balles ! Il ne reste plus que les capsules ! Sa tante et lui demeurèrent un moment immobiles, confondus. Est-ce possible ? Qui aurait pu ? Un inspecteur ? Le juge d'instruction ? Elle s'arrêta et d'une voix étranglée, « Écoute, du bruit !» Ils écoutèrent, et la veuve alla jusqu'au vestibule. Elle revint, furieuse, exaspérée par l'échec et par la crainte qu'elle avait eue.
« Personne. Les voisins doivent être sortis. Nous avons le temps. Ah, Lupin, tu riais déjà. Le couteau, Gabriel,
il est dans ma chambre.
Va le chercher. »
Gabriel s'éloigna en hâte. La veuve trépignit de rage.
« Je l'ai juré. Tu y passeras, mon bonhomme. Je l'ai juré à Dugrival. Et chaque matin et chaque soir, je refais le serment. Je le refais à genoux. Oui, à genoux devant Dieu qui m'écoute. C'est mon droit de venger le mort. Ah, dis donc, Lupin, il me semble que tu ne ris plus. Bon sang, mais on dirait même que tu as peur. Il a peur. Il a peur. Je vois ça dans ses yeux. Gabriel arrive, mon petit. Regarde ses yeux. Regarde ses lèvres. Il tremble. Donne le couteau que je lui plante dans le cœur, tandis qu'il a le frisson. Oh, Froussard ! Vite, vite, Gabriel, donne le couteau !
Impossible de le trouver ! Il a disparu de ma chambre. Je n'y comprends rien.
Tant mieux !
Cria la veuve Dugrival à moitié folle.
Tant mieux ! Je ferai la besogne moi-même !
Elle saisit Lupin à la gorge et l'étreignit de ses 10 doigts crispés, à pleine main, à pleine griffe, et elle se mit à serrer désespérément. Lupin eut un râle et s'abandonna. Il était perdu. Brusquement, un fracas du côté de la fenêtre. Une des vitres avait sauté en éclats.
« Quoi ? Qu'y a-t-il ? »
bégaya la veuve en se relevant bouleversée. Gabriel, plus pâle encore qu'à l'ordinaire, murmura
« Je ne sais pas, je ne sais pas. »
« Comment a-t-on pu ?»
Elle n'osait bouger, dans l'attente de ce qui allait se produire. Et quelque chose surtout l'épouvantait, c'est que par terre, autour d'eux, il n'y avait aucun projectile. Et que la vitre, pourtant, cela était visible, avait cédé au choc d'un objet lourd et assez gros, d'une pierre sans doute. Après un instant, elle chercha sous le lit, sous la commode.
« Rien !»«
Non !»
fit son neveu qui cherchait également. Et elle reprit en s'asseyant à son tour.
« J'ai peur. Les bras me manquent. Achève-le.
J'ai peur, moi aussi.
Pourtant, il faut bien. J'ai juré. »
Dans un effort suprême, elle retourna près de Lupin et lui entoura le cou de ses doigts raidis. Mais Lupin, qui scrutait son visage blême, avait la sensation très nette qu'elle n'aurait pas la force de le tuer. Pour elle, il devenait sacré, intangible. Une puissance mystérieuse le protégeait contre toutes les attaques. Une puissance qu'il avait déjà sauvée 3 fois par des moyens inexplicables et qui trouverait d'autres moyens pour écarter de lui les embûches de la mort. Elle lui dit à voix basse
« Ce que tu dois te ficher de moi !»«
Ma foi, pas du tout !» À ta place, j'aurai une venette.
Fripouille, va. Tu t'imagines qu'on te secourt, que tes amis sont là, hein? Impossible, mon bonhomme.
Ah, je le sais. Ce n'est pas eux qui me défendent. Personne même ne me défend.
Alors,
tout de même, il y a quelque chose d'étrange là-dessous, de fantastique, de miraculeux, qui te donne la chair de poule, ma bonne femme.
« Misérable, tu ne riras plus bientôt. »«
Ça m'étonnerait. »«
Patiente. »
Elle réfléchit encore et dit à son neveu
« Qu'est-ce que tu ferais ?»«
Rattache-lui le bras et allons-nous-en. »
Conseil atroce. C'était condamner Lupin à la mort la plus affreuse. la mort par la faim.
Non, il trouverait peut-être encore une planche de salut. J'ai mieux que cela. »
Elle décrocha le récepteur du téléphone. Ayant obtenu la communication, elle demanda
« Le numéro 822-48, s'il vous plaît. »
Et après un instant,
« Allô ? Le service de la sûreté ? Monsieur l'inspecteur principal Ganimard est-il ici ? Pas avant 20 minutes. Dommage. Enfin, quand il sera là, vous lui direz ceci de la part de Madame Dugrival. Oui, Madame Nicolas Dugrival. Vous lui direz qu'il vienne chez moi. Il ouvrira la porte de mon armoire à glace. Et cette porte ouverte, il constatera que l'armoire cache une issue qui fait communiquer ma chambre avec deux pièces. Dans l'une d'elles, il y a un homme solidement ligoté. C'est le voleur, l'assassin de Dugrival. Vous ne me croyez pas ? Avertissez, monsieur Ganimard, il me croira, lui. Ah, j'oubliais le nom de l'individu. Arsène Lupin. »
Et sans un mot de plus, elle raccrocha le récepteur.
« Voilà qui est fait, Lupin. Au fond, j'aime mieux autant cette vengeance. Ce que je vais me tordre en suivant les débats de l'affaire Lupin. Tu viens, Gabriel ?»«
Oui, ma tante. » »«
Adieu, Lupin. On ne se reverra sans doute pas, car nous passons à l'étranger. Mais je te promets de t'envoyer des bonbons quand tu seras au bagne. »«
Des chocolats, la mère. Nous les mangerons ensemble. » »«
Adieu. Au revoir. »
La veuve sortit avec son neveu, laissant Lupin enchaîné sur le lit. Tout de suite, il remua son bras libre et tâcha de se dégager. Mais à la première tentative, il comprit qu'il n'aurait jamais la force de rompre les cordons d'acier qui le liaient. Épuisé par la fièvre et par l'angoisse, que pouvait-il faire durant les 20 ou 30 minutes peut-être qui lui restaient avant l'arrivée de Ganimard ? Il ne comptait pas davantage sur ses amis. Si 3 fois il avait été sauvé de la mort, cela provenait évidemment de hasards prodigieux, mais non point d'une intervention de ses amis. Sans quoi, ils ne se fussent pas contentés de ces coups de théâtre invraisemblables. Ils l'eussent bel et bien délivré. Non, il fallait renoncer à toute espérance. Ganimard venait. Ganimard le trouverait là. C'était inévitable. C'était un fait accompli. Et la perspective de l'événement l'irritait d'une façon singulière. Il entendait déjà les sarcasmes de son vieil ennemi. Il devinait l'éclat de rire qui, le lendemain, accueillerait l'incroyable nouvelle. Qu'il fût arrêté en pleine action, sur le champ de bataille, pour ainsi dire, et par une escouade imposante d'adversaires, soit. Mais arrêté, cueilli plutôt, ramassé dans de telles conditions. C'était vraiment trop stupide. Et Lupin, qui tant de fois avait bafoué les autres, sentait tout ce qu'il y avait de ridicule pour lui dans le dénouement de l'affaire Dugrival. Tout ce qu'il y avait de grotesque à s'être laissé prendre au piège infernal de la veuve. Et en fin de compte, à être servi à la police comme un plat de gibier, cuit à point et savamment assaisonné. « Sacrée veuve » bougonna-t-il. « Elle aurait mieux fait de m'égorger, tout simplement. » Il prêta l'oreille. Quelqu'un marchait dans la pièce voisine. « Ganimard ?» Non. Quelle que fût sa hâte, l'inspecteur ne pouvait encore être là. Et puis, Ganimard n'eût pas agi de cette manière, n'eût pas ouvert la porte aussi doucement que l'ouvrait cette autre personne. Lupin se rappela les 3 interventions miraculeuses auxquelles il devait la vie. Était-il possible que ce fût réellement quelqu'un qui l'eût protégé contre la veuve et que ce quelqu'un entreprît maintenant de le secourir? Mais qui, en ce cas? Sans que Lupin réussît à le voir, l'inconnu se baissa derrière le lit. Lupin devina le bruit des tenailles qui s'attaquaient aux cordelettes d'acier et qui le délivrait peu à peu. Son buste, d'abord, fut dégagé, puis les bras, puis les jambes. Et une voix lui dit « Il faut vous habiller. » Très faible, il se souleva à demi, au moment où l'inconnu se redressait.
« Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ?»
Et une grande surprise l'envahit. À côté de lui, il y avait une femme vêtue d'une robe noire et coiffée d'une dentelle qui recouvrait une partie de son visage. Et cette femme, autant qu'il pouvait en juger, était jeune et de taille élégante et mince.
« Qui êtes-vous ? Il faut venir !»
dit la femme.
« Le temps presse. Est-ce que je peux ?»
dit Lupin en faisant une tentative désespérée.
« Je n'ai pas la force. Buvez cela. »
Elle versa du lait dans une tasse, et comme elle la lui tendait, sa dentelle s'écarta, laissant la figure à découvert.
« Toi ? C'est toi ? C'est vous qui êtes ici ? C'est vous qui étiez ?»
Il regardait stupéfait cette femme dont les traits offraient avec ceux de Gabriel une si frappante analogie, dont le visage, délicat et régulier, avait la même pâleur, dont la bouche avait la même expression dure et antipathique. Une sœur n'eût pas présenté avec un frère une telle ressemblance. À n'en pas douter, c'était le même être. Et sans croire un instant que Gabriel se cachât sous des vêtements de femme, Lupin, au contraire, eut l'impression profonde qu'une femme était auprès de lui et que l'adolescent qu'il avait poursuivi de sa haine et qu'il avait frappé d'un coup de poignard était bien vraiment une femme. Pour l'exercice plus commode de leur métier, les époux Dugrival l'avaient accoutumé à ce déguisement de garçon.
« Vous, vous, qui se serait douté ?»
Elle vida dans la tasse le contenu d'une petite fiole.
« Buvez ce cordial. »
Il hésita, pensant à du poison.
« C'est moi qui vous ai sauvé. En effet, en effet. »
« C'est vous qui avez désarmé le revolver ?»«
Oui. » »«
Et c'est vous qui avez dissimulé le couteau ?»«
Le voici, dans ma poche. »
« Et c'est vous qui avez brisé la vitre au moment où votre tante m'étranglait ?»«
C'est moi, avec le presse-papier qui était sur cette table et que j'ai jeté dans la rue. »
« Mais pourquoi ?
Pourquoi ?»
demanda-t-il absolument interdit.
« Buvez. »
« Vous ne vouliez donc pas que je meure ?
Mais alors pourquoi m'avez-vous frappé au début ?»«
Buvez. » Il vida la tasse d'un trait, sans trop savoir la raison de sa confiance subite.
« Habillez-vous, rapidement !»
ordonna-t-elle en se retirant du côté de la fenêtre. Il obéit, et elle revint près de lui, car il était retombé sur une chaise, exténué.
« Il faut partir. Il le faut. Nous n'avons que le temps. Rassemblez toutes vos forces. »
Elle se courba un peu pour qu'il s'appuyât à son épaule, et elle le mena vers la porte et vers l'escalier. Et Lupin marchait, marchait comme on marche dans un rêve, dans un de ces rêves bizarres où il se passe les choses du monde les plus incohérentes et qui étaient la suite heureuse du cauchemar épouvantable qu'il vivait depuis 2 semaines. Une idée cependant l'effleura. Il se mit à rire.
Pauvre Ganimard. Ah, vraiment, il n'a pas de veine. Je donnerais bien 2 sous pour assister à mon arrestation. »
Après avoir descendu l'escalier, grâce à sa compagne qui le soutenait avec une énergie incroyable, il se trouva dans la rue, en face d'une automobile où elle le fit monter.
« Allez !»
dit-elle au chauffeur. Lupin, que le grand air et le mouvement étourdissaient, se rendit à peine compte du trajet et des incidents qui le marquaient. Il reprit toute sa connaissance chez lui, dans un des domiciles qu'il occupait et gardé par un de ses domestiques auxquels la jeune femme donnait des instructions.
« Va-t'en »
dit-elle au domestique. Et comme elle s'éloignait également, il la retint par un pli de sa robe.
« Non, non, il faut m'expliquer d'abord. Pourquoi m'avez-vous sauvé ?
C'est à l'insu de votre tante que vous êtes revenu ?
Mais pourquoi m'avez-vous sauvé ? Par pitié !
Elle se taisait, et le buste droit, la tête un peu renversée, elle conservait son air énigmatique et dur. Pourtant, il crut voir que le dessin de sa bouche offrait moins de cruauté que d'amertume. Ses yeux, ses beaux yeux noirs, révélaient de la mélancolie. Et Lupin, sans comprendre encore, avait l'intuition confuse de ce qui se passait en elle. Il lui saisit la main. Elle le repoussa en un sursaut de révolte, où il sentit de la haine, presque de la répulsion. Et comme il insistait, elle s'écria
« Mais laissez-moi, laissez-moi! Vous ne savez donc pas que je vous exècre ?»
Ils se regardèrent un moment, Lupin déconcerté, elle frémissante et pleine de troubles, son pâle visage tout coloré d'une rougeur insolite. Il lui dit doucement « Si vous m'exécrez, il fallait me laisser mourir. C'était facile. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?»«
Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que je sais ?»
Sa figure se contractait. Vivement, elle la cacha dans ses deux mains et il vit deux larmes qui coulaient entre ses doigts. Très ému, il fut sur le point de lui dire des mots affectueux, comme à une petite fille qu'on veut consoler, et de lui donner de bons conseils, et de la sauver à son tour, de l'arracher à la vie mauvaise qu'elle menait. Mais de tels mots eussent été absurdes, prononcés par lui. Il ne savait plus que dire maintenant qu'il comprenait toute l'aventure, et qu'il pouvait évoquer la jeune femme à son chevet de malade, soignant l'homme qu'elle avait blessé, admirant son courage et sa gaieté, s'attachant à lui, s'éprenant de lui, et trois fois, malgré elle sans doute, en une sorte d'élan instinctif, avec des accès de rancune et de rage, le sauvant de la mort. Et tout cela était si étrange, si imprévu, un tel événement bouleversait Lupin, que cette fois, il n'essaya pas de la retenir quand elle se dirigea vers la porte, à reculons et sans le quitter du regard. Elle baissa la tête, sourit un peu et disparut. Il sonna d'un coup brusque.
« Suis cette femme !»
dit-il à un domestique.
« Ah, et puis non, reste ici. Après tout, cela vaut mieux. »
Il demeura pensif assez longtemps. L'image de la jeune femme l'obsédait. Puis il repassa dans son esprit toute cette curieuse, émouvante et tragique histoire où il avait été si près de succomber. Et prenant sur la table un miroir, il contempla longuement, avec une certaine complaisance, son visage que la maladie et l'angoisse n'avaient pas trop abîmé.
« Ce que c'est pourtant que d'être joli garçon !»